Apprenons à dire non, à éconduire, à s'abstenir, à s'interdire même. Apprenons à dire non, c'est-à-dire à refuser, à récuser, à résister, à se libérer aussi pour le principe de toutes les injonctions qui nous sont données, à s'affranchir. Dire non, pas en mon nom, non à une politique, un président, un gouvernement, non à une conception du monde à laquelle on voudrait nous soumettre, comme Antigone qui est celle qui depuis toujours a su dire non à un ordre, une syntaxe, une figure imposée, non à la perfection vers laquelle il faudrait tendre, non au modèle, au mentor, non au maître, non à toute forme établie de domination. Apprenons à dire non à la violence des phrases lapidaires aussi, quand on peut faire le pari du long ou de la question, à la haine ordinaire qu'on ne saurait se dire dans les yeux en vrai, mais dont on se gargarise derrière un écran, au bon goût, au sale goût, à la tyrannie du jugement de goût, tiens, quel qu'il soit, qu'on nous impose par-ci, par-là, et dont on oublie qu'il est toujours une construction sociale, et donc un potentiel mépris, un certain dégoût de l'autre. Dire non à ce qu'on attend de vous. Non parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on a autre chose à faire, parce qu'on voudrait souffler un peu aussi. Non au tout, tout de suite, au tout petit, au tout trop vite. Non, non, non.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui, sait-il dire non? Il est le français dont la musique est certainement la plus connue à l'étranger. Ses titres totalisent des millions de vues, de téléchargements, de ventes et dépassent même dans certains cas le milliard d'écoutes. Son nouvel album Seven vient de paraître. C'est déjà un succès monumental. Bonjour David Guetta.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous savez dire non, vous?
J'ai appris dernièrement, et c'est quelque chose de très important, mais ça fait pas longtemps que je sais.
Et pourquoi donc? Pourquoi c'était si difficile à apprendre, à appliquer, dire non?
C'est difficile parce que quand on veut réussir, qu'on a l'ambition d'être au top de son activité, on peut pas se donner de limites. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je disais oui à tout, et je me suis rendu compte avec le temps que ça rend fou. À des stades où les gens ont des dépressions dernièrement dans mes collègues il y a un ami qui s'appelait Avicii et qui s'est suicidé malheureusement parce que on vit dans des métiers où on a énormément de pression et où on est aussi accro au succès parce que le succès c'est très addictif. Et donc, j'ai décidé d'apprendre à dire non depuis pas très longtemps, depuis 2-3 ans.
C'est la mort d'Avicii qui a tout déclenché? C'était plus récent que ça.
La mort d'Avicii m'a fait beaucoup réfléchir, et d'ailleurs pas que moi, hein, tous les gens de ma profession. C'est juste que pour son équilibre, on a besoin d'avoir une famille, on a besoin d'avoir des amis, on a besoin des fois d'avoir du temps non productif. Mais c'est-à-dire que, imaginez-vous que je vais avoir 51 ans, j'ai découvert ce que c'est que le temps non productif il y a 2 ans. Mais vraiment. Et alors, ce qui est extraordinaire avec ce nouvel album que j'ai, c'est que j'ai découvert un truc fou, c'est que le temps non productif, c'est en réalité le temps qui rend le plus créatif.
C'est ça. À quoi ça tient, ça, justement?
Eh ben, c'est parce qu'en fait, la créativité, elle vient pas forcément au moment où on est assis devant le clavier en studio. La créativité, elle peut venir quand on est en train de faire la grasse matinée et de zoner sur YouTube à écouter des trucs parce qu'on prend le temps de le faire. Quand on est en train de se promener avec ses enfants dans le parc et que du coup on a de la place de cerveau vide quoi. Et finalement, c'est là qu'il y a des nouvelles idées qui viennent.
Pour autant, rassurez-moi, vous faites toujours de la musique pour les mêmes raisons.
Alors justement, je fais de la musique encore plus pour les mêmes raisons maintenant que sur les derniers albums.
Alors quelle raison?
Eh bien en fait, j'aime faire de la musique en me disant, ben, même si c'est pas un tube, c'est pas grave. Et le fait d'approcher l'album comme ça, pour moi, ça m'a permis justement de faire cet album de la même manière que j'ai fait le premier, c'est-à-dire vraiment en m'éclatant. Et finalement, c'est ça qui compte aujourd'hui dans ma vie, c'est que je suis à un âge où je veux profiter de ma vie, quoi. Voilà. Et donc, une des choses qui me rend le plus heureux, c'est de faire de la musique. Mais après, la question est de quelle manière. Et si j'ai choisi de la musique, c'est que je voulais pas être dans le système. Et finalement, avec le succès, tu te retrouves dans le système.
Ah bah vous particulièrement.
Ouais. Mais oui, complètement. Oui. Et c'est très marrant d'ailleurs parce que j'ai vu une interview de moi à l'âge de, j'avais genre 19 ans. Il me demande alors, vous êtes qui ? Et à l'époque, j'étais DJ au Palace et au Bain. Je dis, ben moi, justement, je suis complètement hors du système. Je fais la musique, rien à voir avec le business. Moi, c'est la passion pour le mix, pour le vinyle. Et je suis un DJ de bedroom. Mais c'était vrai.
C'était vrai, ouais.
Mais c'est assez marrant de voir le David Guetta de cette époque. Et qu'en fait, le système, c'est devenu moi.
Ah oui.
C'est fou.
Et parce qu'il faut le rappeler quand même aux auditeurs de France Inter, David Guetta, c'est beaucoup de choses. David Guetta, c'est ça. Et puis c'est ça aussi. Just a little more love. Just a little more peace is all it takes to live a dream. Walk hand in hand, you got to understand. And one day soon, we'll live in harmony. C'est un gros tube avec les Black Eyed Peas. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Un autre gros tube avec Nicki Minaj. Et puis c'est Titanium avec Sia. David Guetta, on peut pas ne pas parler de chiffres avec vous quand même.
Surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas ne pas danser parce que je vois que les techniciens sont tous en train de danser dans la.
Et moi-même. Et moi-même, David.
Moi, je suis là pour ça.
Ah ben c'est ça. Mais votre succès planétaire a quelque chose d'assez vertigineux. Quand une chanson comme celle dont on a entendu un extrait avec Nicki Minaj, Hey Mama, a été écoutée plus d'un milliard de fois, on se dit quoi ?
On se dit que c'est dingue, complètement dingue.
Parce que ça vous dépasse.
Ben c'est ça. Et un titre comme I Got a Feeling que vous avez passé, c'est un des titres qui a eu le plus de succès dans l'histoire de la musique. Non mais c'est vraiment, hein.
C'est fou. Donc il y a un sentiment de fierté en fait.
Ah mais bah évidemment, c'est énorme.
Vous venez de sortir votre 7e album, David, qui est un double album. Pourquoi est-ce que vous continuez à faire de la musique aujourd'hui, à créer des morceaux? Parce que vous pourriez rester les doigts de pied en éventail à papette, vous, jusqu'à la fin de vos jours. Qu'est-ce qui vous motive au fond?
Parce que je m'éclate, voilà. Je m'éclate et c'est pour ça que je me suis posé des vraies questions. Génialement, à un moment... Effectivement, j'ai la chance de. Aujourd'hui, je travaille plus parce que je suis obligé de travailler. Donc, je dis, à partir du moment où je choisis de continuer à travailler, il faut le faire parce que ça m'éclate.
Mais qu'est-ce qui vous éclate justement ?
Mais
la
moi,
composition.
Je m'amuse. Mais moi, je suis en studio, je m'amuse.
C'est la production.
Je danse, je crie, je fais des bons.
Ah carrément.
Mais vraiment. Ouais. Mais d'ailleurs, je suis connu pour ça dans le milieu pour mon enthousiasme parce que moi. J'ai commencé à être DJ parce que j'étais passionné par cette musique et je voulais partager ma passion avec les autres.
Vous êtes aussi connu pour votre travail, David Guetta, par le fait que vous travaillez beaucoup.
Ah, je suis très... Ah ouais, non, mais là, il y a personne qui me suit, hein, je vous dis tout de suite.
Ah bah, en tout cas, il y en a une qui vous suit certainement pas, c'est La Culture dans cette émission et son actualité qui se repose un petit peu trop sur ses lauriers depuis qu'elle a dépassé les 300 abonnés sur son compte Twitter. Ça n'est rien par rapport à David Guetta. Que se passe-t-il donc aujourd'hui?
Ah
la fin, il n'en restera qu'un. Hier, l'honorable Académie Goncourt a révélé le nom de ses quatre finalistes. Résultat, que des garçons et assez flamboyants. Révélation de la rentrée, sérieux favori, David Diop et son roman Frères d'âme est aussi sur la liste du Fémina, du Médicis, du Renaudot et de l'Interallié, Grand Chelem. Les trois autres sont Nicolas Mathieu pour son formidable roman social, Leurs enfants après eux, Thomas Reverdy avec L'hiver du mécontentement et Paul Gréveillac pour son délicat Maître et esclave. Fin du suspense mercredi prochain.
Elle est en nous, cette colère. C'est une colère, c'est un bleu, c'est un vert, c'est un rose. Ça fait les coloris, ça fait les tableaux.
Chagall. L'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence vernit aujourd'hui Chagall du noir et blanc à la couleur. Grande expo d'hiver qui met en lumière une nouvelle facette du maître de la couleur. Dans une deuxième partie de sa vie, après 1948, le peintre, d'origine biélorusse, s'est en effet essayé au noir et blanc, réunissant peinture, sculpture, dessin, gravure ou collage. L'événement expose une centaine d'œuvres pour appréhender la densité et les profondeurs du bicolore. Bon or, monseigneur.
J'habite ici depuis plus de 30 ans. Eh bien, ça m'a beaucoup apporté.
La maison coupe le son un an après la mort de Pierre-Henri, maître de l'électroacoustique. Sa maison des sons, dans le 12e arrondissement parisien, ferme ses portes aujourd'hui. Le bâtiment avait été transformé par le compositeur en véritable laboratoire sonore. Près de 14 000 de ses bandes magnétiques seront stockées à la Bibliothèque nationale de France en attendant qu'une application numérique ne permette de visiter la maison en réalité virtuelle. Et mercredi, non, séance dans le guidon, car aujourd'hui dans les salles, le show must go on grâce à Bohemian Rhapsody, le biopic glam consacré à Freddie Mercury signé Bryan Singer. On se retrouve en liberté avec Pierre Salvadori, notre invité de jeudi dernier, qui livre une comédie jouissive et débridée. Et sinon, on opte pour une soirée bunga bunga avec Silvio et les autres, organisée par Paolo Sorrentino. Magnifico. David Guetta, invité exceptionnel de Boomerang ce matin. C'est pas la première fois que vous venez ici dans les locaux de Radio France, dites-moi.
Non mais alors, écoutez, on m'a dit, surtout ne parle pas de ça, parce que là tu vas vraiment avoir l'air très très vieux. Je suis venu pour une autre radio qui s'appelait Radio 7. Mais c'est-à-dire que même vous, vous la connaissez pas, voilà, c'est pour vous dire à quel point...
C'est vrai qu'ils étaient ici. C'est... Me dit-on en régie, j'étais alors, sans doute voilà. Beaucoup alors, trop jeune, voire pas
alors,
né, David.
Alors, je vais te dire, c'était, il y a deux DJ. Il faut que j'en parle parce que ça a influencé ma vie.
Ah, c'est vrai?
Vraiment.
La maison de la radio.
Il y avait deux DJ qui faisaient des émissions. Il y avait Sydney qui faisait une émission. Le premier qui a joué du hip-hop, c'était ici. C'est fou quand même quand on y pense.
Moi, ça m'étonne pas.
Mais là, je parle de ça, c'était avant Radio Nova, c'était avant. Et je suis venu ici. Et j'ai vu un DJ scratcher. C'est comme ça que j'ai compris comment on scratchait. Et je suis rentré chez moi et j'ai commencé à scratcher. Mais vraiment. Et il y avait un autre DJ qui s'appelait RLP et qui jouait des morceaux de funk qui mixait et qui jouait les premiers morceaux qui étaient faits avec une boîte à rythme qui s'appelle la 808, qui est toujours aujourd'hui la boîte à rythme de référence. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce son? C'était des sons qu'on connaissait pas. Et c'est formidable, je trouve, de penser que c'était à Radio France qui avait les émissions de musique les plus avant-gardistes, 100 fois plus avant-gardistes que tout ce qui a été fait après par la radio FM.
Et qui
FM.
Est une maison publique, David. Je pensais aussi que vous étiez peut-être venu accompagner votre demi-frère, Bernard Guetta, qui a quand même passé 27 ans dans cette maison.
Je ne suis jamais allé à son émission.
David,
je l'ai écouté, hein,
ah,
bien
quand
sûr.
Même, ouais. Bah, moi, je me dis quand même, par ces deux destins, parce que vous savez que Bernard Guetta est si important dans notre chaîne, votre famille devait être bien étonnante pour produire deux enfants aux trajectoires si différentes. Quel genre de famille est-ce que c'était, la famille Guetta?
Ah, c'est assez spécial, hein, chez moi. Alors, c'était très drôle. J'ai invité ma fiancée, enfin ma copine, un jour chez moi, à passer Noël. Et il y avait Bernard à la maison.
Qui vous a fait une chronique géopolitique.
Mais c'est bien pire que ça. Alors, il faut comprendre que, ma copine qui est cubaine, ses parents sont réfugiés politiques aux États-Unis, elle a grandi aux États-Unis, donc, compliqué avec l'histoire du communisme et tout ça. Et voilà que toute ma famille se met à chanter des chants révolutionnaires, l'international, tout ça. Et alors, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette famille de dingue le jour de Noël? Donc voilà, ça peut être ça, les réunions familiales, mais tout ça dans la bonne humeur.
Et vous étiez quel genre d'élève, vous, quand vous étiez petit? Je me pose la question.
Moi, j'étais pas un super élève, surtout comparé à mon frère. Je me débrouillais toujours pour avoir la moyenne, voilà.
Est-ce que vous diriez que, en choisissant de devenir DJ, mais aussi chef d'entreprise, directeur artistique de grands clubs, en choisissant la vie que vous avez choisie, est-ce que vous êtes érigé contre certaines des valeurs qu'on vous avait inculquées? Est-ce qu'il y avait une forme de
rébellion? Mais complètement, parce que mes parents, et encore plus ma mère, c'était un télo de gauche, ce qui compte...
C'est pas très très grave, David.
C'est pas grave du
tout. Ça arrive à des gens bien.
Ah non, mais bien sûr. C'était un peu aussi l'argent, c'est mal. Bon. Et donc, moi, ma rébellion de teenager, c'est-à-dire, moi, je veux gagner du pognon.
D'accord.
Ce qui est assez, une éducation complètement inversée. C'est assez drôle.
Mais comment ils ont réagi quand vous leur avez dit que vous vouliez être DJ?
Alors, ma mère, elle détestait l'idée que je travaille la nuit, le monde de l'entreprise, tout ça. Alors, vraiment, c'était épouvantable. Par contre, plus tard, quand j'ai décidé d'arrêter les boîtes de nuit pour devenir artiste, elle a dit, ah vraiment là, enfin, je suis fier de toi.
Et est-ce qu'elle savait au moins ce que c'était un DJ? Parce que moi, elle a répondu à tes souhaits. Hein.
Non.
Pensons que j'étais en train d'éternuer.
Mais mon père, le malheureux, je l'ai rendu fou parce que parce que tous les jours, j'apprenais à mixer dans ma chambre. Et donc, je jouais les mêmes disques tous les jours, pendant des heures et des heures et des heures. Et il en pouvait plus.
Mais en quoi ça
donc,
consistait
lui,
d'ailleurs?
Lui comprenait. Ben, parce que j'apprenais... Au départ, le truc de base, c'est-à-dire de faire des enchaînements qui soient sans interruption.
Fluide.
Fluide, voilà. Mmh. Et après, ça a été de faire des remixes, c'est-à-dire de prendre des chansons existantes, d'ajouter, d'avoir une boîte à rythme, d'ajouter des rythmes par-dessus pour rendre la chanson plus dansante. Mmh. Et puis après, petit à petit, ça a été de créer ma propre musique.
Mais qu'est-ce que vous utilisiez comme matériel au tout début, quand vous aviez 15 ans dans votre chambre?
Non mais là, les moins de 50 ans ne vont même pas me comprendre. Mais
bah, rassurez-vous, la plupart ont plus de 50 ans, les gens qui nous écoutent.
Bon, ben ça va. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la technologie qui fait qu'il y a de nouveaux mouvements musicaux. Quand il y a eu le piano, ça a changé l'histoire de la musique classique.
Rassurez-moi, vous n'étiez pas né.
Non, j'étais pas né. Et moi, ils ont fait... Il y avait un sketch très drôle des Guignols où ils avaient fait un piano spécialement pour moi à une touche.
Remarquez, vous avez de l'autodérision.
J'ai trouvé ça très très drôle, j'ai montré à tous mes amis. Alors,
donc vous avez vu la technologie évoluer.
Et ben voilà ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'invention des boîtes à rythme. Et s'il n'y avait pas les boîtes à rythme, il n'y aurait pas eu la house music, il n'y aurait pas eu la techno. Et il y a eu l'invention du sampler. S'il n'y avait pas le sampler, il n'y aurait pas eu le hip-hop. Donc moi, j'ai vu ça.
Mais cet aspect bricolé de vos 15 ans, est-ce qu'il est toujours présent dans ce que vous faites aujourd'hui?
Ah, mais moi, je suis un bricoleur. Je me compare à un chef. C'est-à-dire que c'est de la cuisine, ce que je fais. Moi, j'essaye des trucs. Et comme j'ai commencé en étant DJ, j'ai commencé en mixant différents disques ensemble. Donc, quand je crée un morceau, je me dis pas... Ben, je vais faire telle suite d'accords, telle mélodie. Je me dis, alors si j'utilisais une rythmique de funk avec une boîte à rythme de house et que je faisais une mélodie de musique urbaine, je mélangerais tout ça, qu'est-ce que ça donnerait? Et j'essaye. C'est du bricolage.
On va reparler de bricolage, mais aussi de musique, surtout juste après. Tiens, Don't Leave Me Alone en collaboration avec Anne-Marie. Vous êtes sur France Inter avec David Guetta, vous écoutez Boomerang. On boit de l'eau, on lève les bras. Pas trop de sel, David. I don't wanna like him, we be honest. Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. Alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me. Don't leave me alone.
see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. No sitting on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't you ever leave me, don't you ever go. No sitting on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone.
Boomerang sur France Inter.
C'est-à-dire qu'on est quelque part entre le gentleman célibataire et votre cousin branché, vous savez, celui qui avait un iPhone 11 avant même qu'il soit sur le marché, celui qui s'amusait à faire voler un drone, alors vous n'étiez pas encore né, qui avait toujours 3 ans d'avance sur toutes les modes, y compris vestimentaire. Du coup, le pauvre est un petit peu isolé, mais toujours rayonnant, sympa, la dent blanche, le cheveu coupé net, sec, efficace, l'air en bonne santé avec sa barbe maintenant et son casque vissé sur les oreilles. David Guetta, invité de Boomerang ce matin pour Seven, son tout nouvel album dont on vient d'entendre le premier extrait. Et j'aimerais, si vous voulez bien, David, que vous nous aidiez un peu à comprendre le processus de fabrication d'un morceau comme celui-ci, Don't Leave Me Alone. Par quoi vous commencez, en fait ?
Alors, sur un album comme Seven, il y a tous les exemples. C'est-à-dire que des fois, ça part d'une partie instrumentale et on écrit ensuite. Des fois, là, c'est d'une manière ultra traditionnelle au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on se met au piano et on cherche des suites d'accords et des mélodies. Donc la petite séquence que vous entendez au début, avec les accords, dans cet exemple, je travaillais avec ce qu'on appelle des songwriters, c'est des gens qui écrivent les paroles, et il se trouve que le fiancé de la fille qui a écrit les paroles est pianiste, et donc c'est lui qui joue à ce moment-là.
Bricolage.
Voilà, on joue plein de trucs, et à un moment, cette mélodie arrive, et j'adore. Et je dis, bon allez, voilà, ça, c'est top. On reste là-dessus.
Alors, qu'est-ce qu'on fait après ?
Après, on écrit la chanson. Donc, finalement, là, c'est exactement la même méthode que pour écrire une chanson de rock ou de pop. Mmh. Donc, c'est accord piano ou guitare suivi de l'écriture de la chanson. Et on a un truc piano-voix.
Et okay ? Ensuite, il faut rajouter les rythmes.
Alors, ensuite, c'est là où j'interviens le plus.
Aïe.
alors, déjà, il y a dans... Parce que le rythme intervient sur la mélodie, c'est-à-dire que le fait que dans le refrain ça fait pa bam pa bam, bon ça, ne serait-ce que le piano fasse ce rythme-là, du coup la manière d'écrire la chanson, comme on est dans des questions-réponses musicalement, c'est-à-dire que moi ce que j'aime, c'est que on ait l'impression que la mélodie vocale répond à la mélodie musicale,
oui.
Voilà, et que l'ensemble crée quelque chose, mais on est toujours là, si vous voulez, dans juste une écriture traditionnelle, d'accord ? Et après, la différence, donc c'est de la musique de DJ, c'est qu'on utilise, après cette phase-là, quelque part, je me remixe moi-même, c'est-à-dire que je prends ce travail qui a été fait avec les songwriters, je l'emmène chez moi, et là, je travaille pour que ça devienne un morceau qui fait danser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le même morceau, Titanium, par exemple, qui est un gros tube...
Quand on a passé un extrait avec Sia.
Voilà, alors, si vous écoutez juste Sia qui fait Titanium au piano ou à la guitare, vous dites, ça ressemble à un truc pop, ou ça pourrait même venir de la musique classique.
Une chanson de Sia, tout simplement.
Voilà, ouais. Ce qui fait la différence, c'est la production.
Oui.
Et les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est être producteur.
Et la créativité du producteur.
Et donc c'est intéressant d'essayer d'expliquer ce que c'est que ce métier, parce que il y a ce qu'on a expliqué à l'instant, c'est l'écriture et la composition, d'accord ? La composition, c'est jouer les accords et jouer une mélodie et écrire une chanson. Et après il y a la production. Et pour comprendre, si vous jouez, pour prendre des instruments acoustiques que tout le monde connaît, si vous jouez la même mélodie avec une flûte, un violon ou un piano ou avec une guitare électrique, ça va donner une émotion totalement différente. Parce que si vous prenez un son pas du tout agressif comme le violon et où vous jouez la même mélodie avec une guitare électrique, il y a un côté où vous allez dire « Ah oui, c'est de la musique classique », et puis l'autre côté, vous allez dire « Ah, c'est du rock ».
Alors, quels instruments font votre identité ?
Mais vous voyez, c'est l'instrument qui crée l'identité du morceau.
Et vous ?
Eh ben moi, mon identité, c'est une identité électronique, et donc j'utilise, je fais de la musique sur un software qui s'appelle Ableton Live, et qui permet de manipuler les sons. Et donc, c'est fait avec des synthétiseurs. Alors, les synthétiseurs qui existent, c'est pas nouveau, hein. Ça existe depuis les années 70, hein. Donc, mais peut-être que c'est la manière dont on les utilise aujourd'hui. Parce qu'au départ, les synthétiseurs, ils étaient là pour essayer de copier les vrais instruments. Alors qu'aujourd'hui, on les utilise pour créer des sons qui n'existaient pas avant. Donc, il y a même le sound design, c'est-à-dire la création. C'est-à-dire, on part d'une forme d'onde qui est neutre et on en fait un son.
Vous le faites, ça, vous ?
Alors, moi, je suis pas très fort. Je sais le faire et pour des sons assez faciles à réaliser. Et après, des fois, j'utilise des banques de sons qui sont vendues par les sociétés. Mais je comprends parfaitement le principe. Je
oui,
sais
parce que vous êtes assez modeste, en fait. Vous avez toujours travaillé sur le son, David, et on le comprend et on
mais
le
je
sait.
M'entoure oui. Aussi, évidemment.
Est-ce que ça veut dire pour autant que vous faites attention à tous les sons qu'il y a autour de vous tout le temps ?
Oui, alors un peu. Il y a un truc que je n'ai. Ben oui, parce que ça m'est arrivé de sampler des sons de la vie de tous les jours. Par exemple, au lieu d'utiliser un son de caisse claire dans une batterie, prends une goutte d'eau. Vous le positionnez, si vous voulez, dans la musique, ça fait poum tchac. Ben pour faire le tchac, vous utilisez une goutte d'eau. Ça marche aussi, mais ça donne effectivement un côté plus spé. Voilà, la production, c'est ça. C'est d'être capable d'utiliser des sons de manière inattendue et d'amener les gens dans votre univers. Et c'est un univers musical, mais c'est aussi un univers sonore.
Qu'est-ce que c'est un bon son pour vous ?
Ah non, il n'y a pas de bon ou de mauvais son. Il y a le... C'est le...
Le traitement qu'on en fait.
Alors, justement, un bon producteur, c'est quelqu'un qui est capable de sélectionner les sons qui vont ensemble. Alors c'est assez difficile à expliquer, mais si vous voulez, là je peux rentrer technique
mais
si vous voulez.
J'adore moi. Attendez, bien sûr, bon. On apprend plein de choses. Là.
Alors voilà. Alors imaginez-vous que la toute fin du processus de création, c'est le mixage. Le mixage, c'est quand on décide, on met tous les sons à plat. Chaque partie, d'accord, donc la batterie, la guitare, les synthés, les violons, etc., les voix. Et il faut faire rentrer ça, imaginez, dans un tuyau d'arrosage. Pour vous donner une image, vous avez un tuyau, il faut faire rentrer tous les sons dedans. Donc, il y a certains sons, ça va, tout peut pas rentrer. Donc, il y a certains sons, il faut les rétrécir.
Il faut pas forcer, ouais.
Et il y a des sons... Forcément, si on rétrécit un son, l'autre va prendre plus de place.
D'accord.
Donc, par exemple, à l'époque, il y a un artiste qui est français, qui s'appelle Céron.
Qu'on a reçu au CS Micro.
Qui a décidé de mettre la batterie, de lui donner plus de place dans le tuyau d'arrosage qui permet de faire passer tous les sons. Et donc, forcément, comme la batterie prenait plus de place, ça voulait dire que les voix... prenez moins de place, c'est automatique. Okay. Donc, on donne des priorités à certains sons. C'est ça le mixage. Et être un bon producteur, c'est aussi choisir quel son va avec quel son pour qu'on entende tout. Vous avez compris ce que j'ai dit ?
Ouais, franchement, j'ai pas mal compris. Vous avez été assez clair.
J'ai l'impression, je suis complètement nerd.
Non.
Ça y est, il y a plus personne qui écoute.
C'est une masterclass, David. Jamais il vous est arrivé d'avoir envie de silence.
Mais alors, ça, je peux vous dire. Contrairement à tous les gens, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand je suis en voiture, je n'écoute pas de musique. Chez moi, j'écoute assez peu de musique, parce que j'ai envie de silence, évidemment.
Et puis on peut le dire entre nous, parce que là on est vraiment entre nous après cette émission, vous êtes sourd.
Je suis sourd, vous l'avez vu dans le réglage de mon
casque.
C'est-à-dire
quand on a réglé nos micros, David l'a mis très très fort, c'était très inquiétant.
Mais alors je suis sourd et c'est officiel, hein. j'ai fait un test, je suis sourd. Mais c'est pas grave, ça fait partie de mon métier, malheureusement.
Enfin, c'est pas grave, quand on est musicien, c'est quand même un peu grave, non?
Ah ben, il y a des grands musiciens qui ont réussi à des grandes carrières en étant complètement sourds, ce qui n'est pas mon cas.
Quel son est-ce que c'est, le silence, pour vous?
Ah, ça, c'est une question intéressante. Alors, le silence, il n'est jamais absolu. Parce que, par exemple, moi, il y a un truc que je fais automatiquement, sans même y penser, quand je rentre dans une pièce, j'écoute l'acoustique de la pièce. C'est-à-dire que chaque pièce résonne d'une manière différente.
On fait ça aussi à la radio.
Bien sûr, ouais. J'en suis sûr. D'ailleurs, l'acoustique ici est excellente.
Ah, ça me touche que vous disiez ça, vraiment, ce big up à Radio France.
Alors... même quand on écoute le silence ou un tout petit son, il réagit à la pièce.
Donc il y a toujours du bruit.
Il y a toujours du bruit.
Merci infiniment, David, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle le titre de votre nouvel album, Seven. Est-ce que je peux l'appeler 7, moi? Parce qu'on est quand même en France.
Ben, on est en France.
Et vous êtes français, David?
Ben, bien sûr.
Alors, ce que tous les Américains veulent nous faire croire, qui bat déjà tous les records, cet album. Merci d'être venu nous en parler ce matin, tout de suite, les médias, juste après ça.
Faisons la paix, évitons ces sacrifices.